Valeur HI203 et 209, Histoire médiévale. Troisième cassette, première face présentée par Monsieur Neveu.
Nous commençons la cassette numéro 3 et la leçon numéro 6, qui est une explication de document consacré à la donation de Domnulus. Le sujet concerne la vie rurale à l'époque mérovingienne. Nous allons donc suivre la méthode d'explication de documents que vous avez dans les feuilles qui vous ont été distribuées, et ce sera un nouvel exercice de ce point de vue. Je commence donc par la présentation du document. Il s'agit, et c'est d'abord la nature, d'un acte, et plus précisément d'une charte. On trouve d'ailleurs ces deux termes dans le texte, acte de donation à la ligne 10 et charte de donation à la ligne 36. Alors le terme d'acte est beaucoup plus général, il désigne une pièce écrite, que le terme de charte qui désigne, disons, un titre de propriété. L'auteur du texte, c'est Domnulus, l'évêque du Mans, de 559 à 581. Abordons maintenant les circonstances de ce texte. La ville du Mans appartient à cette époque au royaume de Chilpéric, qui règne de 561 à 584. Chilpéric étant le fils de Clotaire Ier et le petit-fils de Clovis. En fait, ce royaume lui appartient depuis 567. C'est une période d'anarchie et de lutte entre les rois francs, car l'épouse de Chilpéric est la célèbre Frédégonde. Quelques points de repère encore. Grégoire de Tours va devenir évêque de Tours en 573 et va commencer à rédiger son Historia Francorum vers 576. Venons-en maintenant aux circonstances précises du texte. L'évêque Domnulus vient de transférer les reliques de Saint Vincent, venu d'Espagne, par l'intermédiaire de Paris, et de fonder une basilique, Saint-Vincent du Mans, pour les recevoir. Il fait don à la nouvelle église de terres, de domaines, pour son entretien et pour celui du clergé. Alors bien sûr, les destinataires du texte sont les membres du clergé de la basilique, et plus généralement le clergé du Mans. En ce qui concerne la transmission du texte, la pièce est tirée du cartulaire de Saint-Vincent du Mans, un cartulaire étant un recueil de chartes, et par conséquent c'est une garantie d'authenticité. Le sujet du texte, pour terminer, c'est donc la donation par l'évêque Domnulus à la basilique Saint-Vincent du Mans de deux villas, la villa Tresson et la villa de la Frenée, et aussi de l'oratoire au bois et d'un pré dont nous aurons l'occasion de reparler. Je passe maintenant à la deuxième partie, la partie essentielle, qui est l'analyse. Alors je vais commencer par une analyse littérale. Le plan du texte est facile à découvrir, c'est un plan très strict qui obéit aux règles de la diplomatique dont nous allons donner quelques éléments. La première ligne du texte, c'est ce qu'on appelle le protocole initial, dans lequel vous avez l'adresse, c'est-à-dire que le texte est adressé au clerc maître vénérable de l'église du Mans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, vous avez la suscription, c'est-à-dire le nom de l'auteur, Domnulus, et sa titulature, ici très simple, puisqu'il est porté simplement évêque. Immédiatement après, c'est ce qu'on appelle le corps du texte, et vous avez une première partie qu'on intitule l'exposé. C'est, si vous le voulez, l'exposé des motifs. Dans ce passage, l'évêque notifie la raison essentielle de cette lettre, c'est-à-dire que pour être valable, la donation doit être ratifiée par le clergé de la ville et du diocèse, auxquels appartiennent collectivement les biens ecclésiastiques. Et donc, ce passage de la ligne 2 à 5 nous montre bien qu'il y a une certaine collégialité du pouvoir ecclésiastique. Une fois ratifiés, ces décrets ne pourront plus être remis en cause par qui que ce soit. Cependant, cette consultation du clergé semble une simple clause de style, puisque l'évêque le semble décider avant même d'avoir la réponse des clercs. Et dès la ligne 11, il emploie la première personne du singulier, « je donne » et non pas « nous donnons ». À la ligne 6, on trouve le véritable motif de la donation, c'est-à-dire le transfert des reliques de Saint-Vincent, qui a entraîné la construction d'une basilique. Il est donc nécessaire de prévoir une donation pour son entretien. Un mot sur ce Saint-Vincent, le texte dit « le Seigneur et vénérable martyr Saint-Vincent », les lignes 7. Il s'agit de Saint-Vincent de Saragosse, c'est un diacre de Saragosse qui mourut à Valence en 304 lors de la persécution de Dioclétien. Ses restes sont d'abord ramenés à Paris en 542 et déposés à l'église Saint-Vincent de Paris. Mais l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, que vous connaissez certainement et dont l'église subsiste aujourd'hui, est fondée sur le même emplacement par Childebert Ier vers 550. Le patron est cette fois Saint-Germain d'Auxerre, un autre saint très populaire de l'époque mérovingienne. Par conséquent, l'évêque du Mans a obtenu le transfert des reliques ou d'une partie des reliques de Saint-Vincent du Mans. Le texte nous renseigne également sur le véritable rôle des reliques. Par exemple, à la ligne 6, il est indiqué « pour le salut du peuple et la garde de la cité ». Donc, voilà le double rôle de ces reliques, un rôle religieux, le salut du peuple, et aussi un rôle quasiment militaire, la garde de la cité, pour laquelle on compte beaucoup sur la puissance de ces reliques. Nous en arrivons maintenant à la ligne 11, troisième paragraphe, à la deuxième partie, c'est-à-dire au dispositif. C'est la partie essentielle qui comprend les décisions proprement dites, à savoir la donation. Je lis le début de ce passage. « Je donne donc en l'honneur du Seigneur Vincent lui-même, et nous voulons que soit donnée, la villa dénommée Tresson, que naguère Abundantius a tenu par les lieux si désignés. » Alors, la suite du texte, des lignes 13 à 17, nous indique très nettement la délimitation des domaines en question. Alors, je vous demande d'avoir sous les yeux le croquis qui vous a été remis de la villa Tresson et de la villa de la Frenée. Et ainsi, vous pouvez suivre les limites telles qu'elles sont indiquées dans le texte. Alors, vous avez d'abord au nord le village de Tresson, c'est le nom actuel du village, et vous avez la rivière qui sert de limite à la villa, qui s'appelait à cette époque le Tresson, et qui s'appelle aujourd'hui l'Étensor. Et par conséquent, du côté est, la limite de la villa se poursuit depuis le village de Tresson jusqu'à Brive, mot d'origine gauloise qui signifie confluent. Il s'agit du confluent entre le Tresson et la Veuve, autre rivière qui va marquer la limite de la villa du côté ouest. En gros, bien évidemment. Alors, au nord, vous avez une limite qui est moins évidente avec le passage par Vilaine sous Lucé, par ce que le texte appelle les broussailles de Cyrin, les Marsay, et ça rejoint la rivière de Tresson. Voilà pour la première villa. Quant à la seconde, elle est décrite dans le même texte à partir de la ligne 22, la villa de la Freinée, que le prêtre Appert de bonne mémoire a tenue, donc au nord des broussailles des Marsais, et disons jusqu'aux environs de Saint-Marc-de-Locney. En fait, la limite n'est pas aussi clairement indiquée pour cette villa de la Freinée, mais nous avons l'emplacement du village, aujourd'hui nommé La Freinée, et qui se trouve sur l'ancienne voie romaine allant vers le Mans, le Mans étant distant d'environ 20 km. Voilà donc, d'après le texte, la délimitation de ces deux villes. Mais ce passage nous apporte également des renseignements tout à fait intéressants sur la façon dont une villa était gouvernée et exploitée à l'époque mérovingienne. Il s'agit bien entendu d'immenses domaines fonciers qui appartiennent ici à l'évêque, mais aussi collectivement au clergé du diocèse. Comment donc sont-ils gouvernés? Il y a deux possibilités. D'une part, ils peuvent être confiés à des laïcs. Par exemple, c'est le cas pour Abundantius, qui est nommé à la ligne 12, ou bien pour les régisseurs de l'Église, qui sont nommés à la ligne 32, pour une autre terre. Deuxième cas, ces domaines peuvent être administrés par des membres du clergé qui les tiennent, c'est-à-dire qui les administrent, si vous voulez, au nom de l'évêque et de l'Église. Dans le cas de Tresson, par exemple, à la ligne 17, il est question d'une partie des domaines que Mallaricus, diacre, a possédé en usufruit. Et de même, pour la villa de la Freinée, on nous dit que le prêtre Appert l'a tenue, à la ligne 22. Le texte nous permet également de distinguer plusieurs parties à l'intérieur du domaine. Vous avez d'une part la partie cultivée, qui comprend, selon la description du texte, de la ligne 18 à la ligne 23, d'une part des champs, deuxièmement des prés, troisièmement des vignes. On peut se demander comment cette partie cultivée est mise en valeur. Et là aussi, le texte nous donne des indications. Car vous avez des listes d'esclaves qui sont données en même temps que le domaine, par exemple à la ligne 19-20 avec les esclaves dont les noms suivent. Ce sont donc essentiellement les esclaves qui travaillent sur la terre de l'évêque. Alors c'est vrai pour les deux domaines. Il faut s'arrêter un tout petit moment sur les anthroponymes, sur les noms de ces esclaves, et l'on peut constater qu'il s'agit d'anthroponymes germaniques. Par exemple, le domade, le domal, l'itomère, le dulfe, etc. On peut donc penser que la plupart de ces esclaves sont à l'origine recrutés en Germanie et qu'il s'agit essentiellement de prisonniers de guerre réduits en esclavage, comme c'était la pratique courante à cette époque. Alors donc, la partie qui est cultivée par le maître avec ses esclaves, c'est ce qu'on appelle la réserve. Et on peut penser, non pas à travers le texte, mais par une indication de la toponymie actuelle, que le centre de cette réserve se trouvait non pas à Tresson, pour le cas du domaine de Tresson, mais vers le sud, à l'emplacement d'un village actuel qui s'appelle Cour de Manche. Car ce terme de Cour de Manche vient très nettement du latin Curtis Dominica, qui signifie la cour du Seigneur. Et par conséquent, il s'agit évidemment de la tête de ce domaine. Aux esclaves, il faut également ajouter les affranchis, et qui sont indiqués à la ligne 29 du texte. Il y a aussi une deuxième catégorie de personnes sur le domaine, ce sont les colons. Par exemple, ligne 24, dans le domaine de la Freinée, il y a 10 colons qui demeurent sur les biens de l'Église. Alors, ces colons ne sont pas nommément désignés, car ils sont juridiquement libres. Mais néanmoins, leur liberté est affectée, puisqu'ils sont attachés au domaine, comme c'était déjà le cas à l'époque romaine. Ils jouissent donc d'une parcelle de terre qu'ils peuvent cultiver à leur convenance, mais ils doivent des redevances au maître du domaine et également du travail sur la réserve aux côtés des esclaves pour les gros travaux, soit de labour, soit de la moisson. Voilà donc pour la partie cultivée du domaine. Venons-en maintenant à la partie périphérique qui est indiquée également aux lignes 18 et 23, à savoir les pâtures, les bois, les eaux. En fait, une bonne partie du domaine était à cette époque recouverte de la forêt, et on en a une indication avec la mention d'un oratoire au bois à la ligne 29-30. Il s'agit sans doute d'un ermitage installé dans la forêt. D'ailleurs, on se rend compte par la topographie actuelle et que l'emplacement de l'oratoire au bois était très probablement le village de Saint-Vincent du Lourouer, qui est très nettement un terroir de défrichement, le défrichement ayant été postérieur, et par conséquent, à l'époque mérovingienne, il s'agissait d'une forêt. Quant aux eaux, elles sont le domaine de la pêche. Les pâtures comprennent essentiellement des zones de broussaille, mentionnées aux lignes 15 et 23, et des zones de jachère qui représentent soit le tiers, soit la moitié du domaine. Les pâtures sont évidemment le domaine de l'élevage, et vous en avez des traces dans les textes, puisqu'il est fait mention, ligne 21, du troupeau de chevaux d'Allomère, ligne 28, du troupeau de porcs de Poupa, et l'on sait qu'à cette époque, les porcs étaient élevés essentiellement dans la forêt, et enfin, ligne 32, du troupeau de moutons de Childe-Gisil. Le domaine fait partie de l'ensemble des biens de l'église du Mans, et ces biens sont dirigés au sommet par un personnage mentionné dans le texte à la ligne 26. Il s'agit du défenseur de l'église, qui s'appelle ici le Déric. Ce défenseur de l'église, à l'image du défenseur de la cité, une institution datant du Bas-Empire, est chargé d'installer de nouveaux colons et de nouveaux esclaves sur le domaine de la Frénée. Si l'on en juge par son nom, le Déric donc, il ne s'agit pas d'un Romain, mais d'un Franc qui est sans doute chargé de défendre l'église contre les empiétements du pouvoir temporel. Le domaine mérovingien, tel qu'il apparaît au travers de ce texte, paraît donc assez proche de la villa romaine du Bas-Empire. L'économie rurale mérovingienne semble être la continuation de celle de l'époque précédente. Maintenant, nous passons au paragraphe suivant, à partir de la ligne 35. Et dans le plan classique que nous suivons, qui est le plan du texte, nous en arrivons à ce qu'on appelle les clauses finales. La première clause, ligne 35 et suivante, concerne la mise par écrit. Nous demandons par conséquent instamment que tous ces laits soient couchés par écrit sur cette charte de donation. C'est dire l'importance de l'acte écrit, alors qu'il tend à disparaître très largement dans le monde laïque à cette époque. Il reste cependant dans le monde ecclésiastique. D'autre part, vous avez une explication providentielle. L'Église a reçu ses domaines en vue de la donation, ligne 36-37, et ligne 37-39, il est question de la basilique de Saint-Vincent du Mont. Donc, je lis la formule. Quiconque aura reçu l'honneur de diriger ce lieu même le revendiquera comme sa possession pour lui-même par droit héréditaire à perpétuité. Alors, on peut s'interroger un petit peu sur ce droit héréditaire, puisque normalement il s'agit d'une succession ecclésiastique et par conséquent il n'y a pas d'hérédité, mais peut-être s'agit-il des laïcs auxquels sont confiés le domaine et qui peut-être pourraient les transmettre à leurs descendants, mais ce n'est pas parfaitement clair. D'autre part, ligne 39-41, l'évêque prévoit une usurpation possible, notamment de la part d'un autre évêque. Et la peine encourue par ces usurpateurs sont une peine religieuse, la malédiction, le châtiment divin. Autrement dit, l'évêque compte beaucoup sur Dieu pour l'application de ses décisions. D'autant plus que l'Église n'est pas toujours efficacement soutenue par le pouvoir civil, bien au contraire. Aux lignes 43 et 44, vous avez un membre de phrase assez énigmatique, mention ayant été faite de la stipulation achilléenne. En fait, il s'agit d'une allusion au 5e concile œcuménique de Constantinople qui a eu lieu en 553 et au cours duquel on a condamné le nestorianisme, et à cette occasion l'évêque de la ville d'Aquilée en Italie s'est séparé de Rome et a pris le titre de patriarche. Donc ici, l'évêque du Mans rappelle sa fidélité à la doctrine officielle de l'Église. Enfin, à partir de la ligne 45, nous en arrivons à ce qu'on appelle le protocole final, avec la mention du lieu fait dans la ville du Mans, et ensuite la date, la 11e année de notre Seigneur roi Chilpéric, la veille des nonnes de Mars. On peut donc savoir la date exacte de ce texte, qui est tout à fait intéressant. La 11e année du roi Chilpéric, qui a commencé son règne en 561, c'est donc 572. Et quant aux nonnes, les nonnes sont le 9e jour avant l'Éside, l'Éside étant au milieu du mois, et en mars, les nonnes sont le 7 du mois, le 7 mars. Par conséquent, la veille des nonnes, c'est le 6 mars exactement. Pour être complet en ce qui concerne le calendrier de cette époque et le calendrier romain, j'ajouterai que le premier du mois est appelé le jour des calendes et qu'on compte les jours à rebours à partir des calendes, à partir des nonnes et à partir des idées. Ensuite, dernier paragraphe, c'est la souscription où nous avons le nom et la qualité d'un certain nombre de membres du clergé. Dans l'original, il y avait évidemment la signature ou le saint manuel, signe tenant lieu de signature. Alors, il s'agit essentiellement d'ecclésiastiques. Le premier est évidemment l'évêque, Domnulus, pêcheur, a souscrit. Alors, ces ecclésiastiques se donnent souvent, comme l'évêque, des titres humbles, des titres d'humilité. Vous avez 5 pêcheurs, vous avez 7 autres personnages qui sont indiqués comme prêtres et 5 comme diacres. Il est intéressant de se pencher un petit peu sur l'anthroponymie, surtout si on en compare avec celle des esclaves, car presque tous ces noms sont gallo-romains. Cependant, il y a quand même quelques noms d'origine germanique, et donc le clergé commence à être pénétré par l'élément germanique. Par exemple, vous avez Dawaredus, ligne 51, Senovecus, ligne 24, Le Donéus, ligne 51, et ligne 36, un petit peu plus haut, le diacre Onulf. Il s'agit donc du clergé de la ville épiscopale, qui gravite autour de l'évêque. Certains desservent directement la cathédrale, et d'autres desservent les basiliques, sous la conduite d'un dignitaire souvent appelé abbé. Mais il ne s'agit pas encore de véritable abbaye monastique, comme il en existera par la suite. Il semble ici que seul le clergé de la ville épiscopale soit consulté par l'évêque. Mais peut-être adresse-t-il cet acte en forme de lettre à tous les clercs du diocèse, y compris à ceux qui sont installés dans la campagne, puisque c'est aussi une période de formation des paroisses rurales. J'ai donc terminé l'analyse littérale, Et maintenant, nous en arrivons à l'élément essentiel, c'est-à-dire le regroupement des idées du texte. Je vous rappelle que dans le cas de l'examen, sur votre copie, cette analyse ne doit pas figurer comme telle, mais elle doit figurer selon un plan réunissant de façon cohérente toutes les idées que vous avez trouvées. Alors, je vais vous donner un exemple de plan, mais sachez qu'il y a toujours plusieurs plans possibles dans le cas d'une explication de document. Voilà mon plan. Premièrement, le clergé mérovingien à travers le texte. Alors, d'abord, c'est un clergé romain. Deuxièmement, il s'agit du clergé de la ville épiscopale. Troisièmement, le rôle de l'évêque à travers le texte et la part de collégialité qui existe dans le pouvoir ecclésiastique. Et aussi quelques éléments que nous trouvons dans le texte sur la hiérarchie ecclésiastique et la gestion des domaines. Enfin, richesse foncière et donations. Donations très nombreuses qui sont souvent reçues par le clergé. Alors, ceci m'amène à la deuxième partie qui concerne la donation d'un domaine, qui est un acte caractéristique de la conception religieuse du clergé mérovingien. Alors, ici, il ne s'agit pas d'une donation évidemment faite par des laïcs, mais d'une donation qui se fait à l'intérieur du monde ecclésiastique. Alors, quelques questions. Pourquoi cette donation? La translation des reliques de Saint Vincent, la fondation d'une basilique. Deuxièmement, les formes de la donation. C'est la forme classique du diplôme que nous avons détaillée tout à l'heure. Troisièmement, quel est l'objet de cette donation? Un grand domaine foncier, peu différent des villae, donc autrement dit grand domaine, appartenant au roi ou au seigneur laïc. Et troisième partie, la villa mérovingienne, d'après le texte, donc le gouvernement du domaine, les parties du domaine, les habitants du domaine, esclaves et affranchis d'une part, colons d'autre part. J'en arrive à ma conclusion. Premier point, quels sont les enseignements du texte? C'est un texte très riche qui nous donne de précieuses indications sur le clergé et les grands domaines ecclésiastiques d'une cité de la Gaule du Nord-Ouest, c'est-à-dire la future Neustrie. C'est d'autant plus important que les textes de ce type sont extrêmement rares. Deuxième élément, la critique. Il s'agit d'un document involontaire qui ne cherche pas à nous donner une image déformée de la réalité. Et il est d'autant plus révélateur de la transformation des évêques en grands seigneurs fonciers, ce qui les amène à s'intégrer à l'aristocratie des propriétaires fonciers. Alors évidemment, on est très loin de la pureté primitive du christianisme, et vous avez remarqué que l'esclavage ne semble guère gêner l'évêque. L'Église est devenue un rouage de la société. La portée historique, enfin, le principal intérêt de ce texte est peut-être son apport dans le domaine de l'histoire rurale. Il nous montre donc l'évolution d'un grand domaine à partir de l'image du domaine romain jusqu'à celle du domaine carolingien que nous aurons bientôt l'occasion d'étudier.